L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bienvenue à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct du salon de l'Association des maires d'Île-de-France, mardi 28 juin, en direct donc de la porte de Versailles. On est ravis d'accueillir sur le plateau Pierrick Amela. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'opération à Seine-Saint-Denis Habitat. Avec vous, on va parler mobilité, mobilité douce, avec eh bien, ces fameuses pistes cyclables, mais pas n'importe lesquelles. Hein. Ce sont ce qu'on appelait pendant la pandémie les coronapistes. Est-ce qu'on parle toujours de coronapistes ou est-ce qu'elles sont devenues finalement en dur? On a l'impression que dans beaucoup de communes, il y avait des choses effectivement qui étaient là pour un... Enfin voilà, on est passé du provisoire au durable finalement.
C'est exactement ça en fait. Les coronapistes, ça a été vraiment la sortie du confinement sur laquelle on a sorti des kilomètres de pistes cyclables. Donc à Pantin, puisque je suis élu à Pantin du coup, on a sorti 11 kilomètres de pistes cyclables.
Dans quelles conditions? C'est-à-dire que pourquoi d'abord il fallait faire des... C'était l'occasion de faire des pistes, d'aménager cette mobilité douce?
Il y avait toute cette question-là, sortir du confinement, de se dire quel est le mode de déplacement le plus sécur sur le plan sanitaire. Donc le vélo était une évidence. Mm-hmm. Et du coup, il y a eu vraiment tout un mouvement qui s'est créé et qui s'est mis en place avec... avec une évidence du fait que, en fait, fallait faciliter les déplacements en vélo.
Donc, ouais, y a un engouement extraordinaire en Île-de-France, mais un petit peu partout. On voit les chiffres qui explosent. Il y a pénurie de cycles dans les grands magasins. Vous-même, tiens, Pierrick, vous utilisez le deux roues
tout le temps.
Oui, quotidiennement. Ouais. Vous êtes convaincu. Alors du coup, ces coronapistes, je le disais, 11 km à Pantin. Et puis finalement, elles sont devenues, on les balise de plus en plus. Elles vont durer. Comment ça a été pris par la population? Parce qu'on sait qu'au niveau des usagers, des automobilistes, des bus, des roulants, ça n'a pas été toujours très bien pris.
Bah, c'est un vrai sujet. Nous, on a un bel exemple du coup à Pantin, c'est l'ex-National 3. Sur laquelle il y a depuis 2007 un projet de réaménagement de façade à façade avec un site propre bus central, plus la réduction à deux fois une voie automobile, plus des bandes cyclables qui étaient prévues initialement du stationnement. Enfin, on avait vraiment un réaménagement total. Et donc on avait déjà quand même dans l'esprit et dans les études d'impact, de toute façon, déjà étudié ce passage, cette réduction en tout cas de la place de la voiture sur cet axe-là. Donc au sortir du confinement, on s'est dit, on y va. On va réserver une des voies. Alors, on était sur
deux fois deux voies.
Une autoroute urbaine où il y avait des fois, deux fois trois voies même, ponctuellement. Donc, on a réservé une voie, mais en mode dégradé, on va dire, avec, comme ça a pu être fait ailleurs, les fameux plots jaunes qui font tant parler d'eux. Et du coup, on a eu un déploiement sur cet axe-là de ces fameux plots jaunes qui, on va dire, n'ont pas donné entière satisfaction.
Pourquoi?
Puisque c'est devenu, en fait, une bande de stationnement.
D'accord.
De stationnement temporaire, de stationnement illicite. Et donc, on a mené des campagnes de verbalisation. Et en fait...
C'est rentré dans les mœurs petit à petit?
Non, ça ne marchait pas, en fait. Ouais. Les gens continuaient à s'arrêter pour aller acheter un paquet de cigarettes, pour aller acheter une baguette de pain. Et du coup, on n'y arrivait pas. Un cycliste, il ne faut pas longtemps en termes de mise en danger pour qu'il soit vraiment en danger de mort. Mmh. Donc là-dessus, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on revient en arrière? Enfin, il y a certaines villes qui ont fait le choix de revenir en arrière. Nous, on a fait un choix totalement différent. Donc, on est passé de la coronapiste à ce qu'on a appelé, nous, la semi-pérennisation. Puisqu'on a ce fameux projet de réaménagement de façade à façade dans le cadre du TZN. Donc, on s'est dit, on va maintenir deux fois une voie sur la totalité de l'axe. Mmh. Et on va inverser le stationnement, la piste cyclable, pour pouvoir protéger vraiment la piste. Donc, on a fait des aménagements avec... les plots qui ont fait leur arrivée à Paris, les petits plots noirs,
oui.
On a fait des marquages en blanc, donc on a fait des choses qui sont à la fois légères, parce que c'est que de la peinture et des plots, mais beaucoup plus intégrés au niveau urbain que les plots.
Alors plus intégrés, et puis ça paraît plus solide, ça paraît moins transitoire pour le coup, on a l'impression que ça va durer, ou c'est peut-être la première étape de quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps.
C'est exactement ça, ça nous a permis en fait de quadrupler la fréquentation cyclable. Donc avant la piste, on était à moins de 500, on était à 400-500 vélos par jour. Mmh. Au mois de septembre dernier, on était à plus de 2000 sur cet axe-là. Donc,
oui, on voit même des embouteillages de vélos. Bah, vous devez le subir peut-être au quotidien. Souvent, avec des gens qui s'énervent, on a même des incivilités entre cyclistes.
Ouais.
On ne l'aurait pas cru, mais c'est vrai que ça arrive. Puisque justement, est-ce que ces pistes sont dimensionnées pour un tel flux quand on passe de 400 à, à 2000. Alors c'est très bien pour l'environnement, pour tout un tas de choses. Pour les utilisateurs, comment ça se passe?
Du coup, il faut anticiper. Et il faut anticiper un sujet, c'est les carrefours. Oui. Qui sont finalement le gros point noir en fait, d'une infrastructure cyclable. On peut dérouler du kilomètre si on arrive sur un carrefour dans lequel on a un peu l'impression qu'on va se faire écraser tout le temps. En fait, c'est qu'on a loupé le truc. Donc, avec le département de la Seine-Saint-Denis qui était aménageur, on a expérimenté deux carrefours hollandais sur la nationale.
Alors, on a besoin de précision. Qu'est-ce qu'un carrefour hollandais?
Donc, c'est ces fameux carrefours en fait qui ressemblent à un rond-point, on va dire, ouais. Et qui permettent en fait de mettre à distance le cycliste de la voiture par rapport à son angle mort. Donc, c'est-à-dire que le cycliste est écarté et la voiture aussi. Donc, au moment où ils se croisent, en fait, ils se croisent à angle droit. Mm. Et donc, en se croisant en angle droit, la voiture voit le cycliste et le cycliste voit la voiture. Et donc, il n'y a plus le risque d'angle mort qui est un des points d'accidentalité les plus forts en milieu urbain. C'est vraiment avec la voiture ou le camion qui tourne à droite et qui se retrouve du coup à heurter un cycliste avec du coup tous les risques que ça engendre derrière.
Donc voilà ces pistes transitoires qui sont désormais inscrites, on va le dire, pratiquement dans le marbre. C'est une belle leçon de ce que vous appelez l'urbanisme tactique. Est-ce qu'il y a une définition de cet urbanisme tactique? C'est quoi? C'est une adaptation
Alors les aménagements tactiques, c'est clairement le fait de faire les choses de manière légère, tout de suite, sans attendre le projet avec les bordures en granit et tout ce qui va avec.
Et donc un déploiement beaucoup plus rapide,
c'est ça.
Une expérimentation, ça marche pas, on enlève, on change, on peut faire beaucoup plus facilement.
On peut faire évoluer, voilà. Mmh. Et sur du coup cette fameuse nationale 3, en fait, cette question de l'expérimentation avec la première version puis la deuxième version nous a conduit à interroger la version définitive qui était sur les rails depuis des années, qui clairement, vu l'expérimentation qu'on a eue et le stationnement sauvage, en gros la piste n'était pas assez protégée pour pouvoir permettre sa fonctionnalité. Donc on a pu comme ça faire évoluer aussi le projet définitif. Donc c'est clairement gagnant-gagnant pour tout le monde, parce qu'au final cette expérimentation-là permet d'avoir un projet qui soit plus durable, plus pérenne et plus adapté aux besoins qu'on aura à sa livraison autour de 2028.
Alors justement, Pierre et Camilla, la prochaine étape, c'est quoi? Comment va se modifier encore le paysage urbain avec ces pistes? À quoi elles vont ressembler dans quelques temps?
Pendant quelques temps, elles vont rester avec ces fameux plots noirs, donc qui sont effectivement plus intégrés et plus jolis. Hein. Enfin, faut dire les choses comme ça. Derrière nous, on va avoir le projet de réaménagement en dur qu'on a fait évoluer, donc avec un aménagement plus traditionnel, avec les bordures de granit, tout ça. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que c'est une méthode qu'on est en train du coup de répliquer sur d'autres aménagements, puisque en fait...
C'est moins cher aussi, non, que de faire ces fameuses bordures?
C'est beaucoup moins cher, et surtout, ça pardonne l'erreur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un aménagement, quand on le fait en dur, il est là pour 30 ou 40 ans. Donc en fait, une fois qu'on s'est trompé, on regrette pendant 30 ans. Alors que là, avec ça, on peut tester et se dire, tiens, là, ça marche, là, ça marche pas, là, il faudrait déplacer ça. Là, le rayon de giration, il est trop grand, donc on va réduire et déplacer les bordures.
Ouais.
Une fois que la bordure, elle est couée dans le béton, elle est couée dans le béton.
C'est vrai que c'est pas mal ces bordures, parce que souvent, ce qu'on a vu, ce qu'on voit encore, par exemple, dans l'agglomération parisienne, mais alentour, c'est juste du marquage au sol. Et là, clairement, ça suffit pas. On voit que ça peut causer effectivement pas mal de zones accidentogènes. Donc les plots à colorer, enfin en plastique, première étape. La deuxième, c'est ceux-ci qui sont beaucoup plus intégrés au mobilier urbain. Et puis quand c'est acté et qu'on a vu que ça marchait sur des années avec des flux importants, à ce moment-là, on peut faire en dur. C'est un petit peu ça les différentes étapes.
C'est ça, c'est un peu ça l'idée.
On est à, vous disiez, 11 km de pistes supplémentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en préparation sur la commune de Pantin?
Alors sur la commune de Pantin, on en a d'autres qui sont en train d'être finalisés. On a grosso modo tous les axes départementaux majeurs, les anciennes nationales qui vont être aménagées par le département. En parallèle, nous on conduit une étude sur le plan de circulation, qui est un autre moyen de rendre une ville cyclable, hein, c'est de travailler sur les sens de circulation. Donc c'est des aménagements qui peuvent être très légers, je veux dire, déplacer un panneau sans interdit, c'est pas très compliqué. Et on va du coup le mener de la même manière avec cet urbanisme transitoire, cet urbanisme tactique, pour pouvoir tester, pouvoir faire des retours d'expérience, des bilans, et faire évoluer ce qui marche, ce qui marche pas, pour pouvoir aller vers la solution la plus, la plus efficace, sachant qu'un banc de circulation, c'est compliqué parce que quand on touche un endroit, ça peut avoir un impact.
Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui me surprend, donc j'en profite que vous soyez cycliste, vous connaissez ça par cœur, c'est la possibilité dans une rue, parfois à sens unique, d'avoir un contresens en vélo qui peut être soit à droite, soit à gauche. C'est un peu compliqué quand on est soi-même roulant, de voir tout à coup des cyclistes arriver complètement dans l'autre sens. Ça, vous y travaillez également, il y a des bonnes pratiques là-dessus.
Alors, il y a des recommandations du CEREMA, le centre de recherche de l'État, là, qui a émis un certain nombre de prescriptions, de directives en fonction du trafic, en fait. On ne fait pas le même aménagement dans une rue où il y a 200 véhicules par jour et dans une rue où il y en a 30 000. Forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Nous, ce qu'on a généralisé à Pantin, c'est le fait d'avoir des voies de 4 mètres de large dans lesquelles on marque vraiment le contresens cyclable, mais de manière continue avec une bande cyclable. C'est des fois décrié par certains. Moi, je trouve que ça marche pas mal parce que du coup, la voiture se repositionne sur la chaussée.
Oui.
En revanche, un camion gros gabarit peut quand même passer de manière ponctuelle, mais le cycliste a plus sa légitimité dans l'espace. Donc nous, c'est comme ça qu'on le traite à Pantin. Après, c'est un aménagement qui est surprenant, mais qui est quand même inscrit dans le code de la route depuis plus d'une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, qui finalement est assez peu accidentogène. Puisque la voiture roule finalement assez doucement dans ces rues-là. On ne fait pas ça dans des rues à 70.
Bon, en tout cas, on renouvelle les conseils de prudence à tous les automobilistes. Les cyclistes font partie de la route. Ils ne vont pas disparaître. Bien au contraire, je pense que ça va s'accélérer, notamment en cette période où il fait plutôt beau et où le vélo est très agréable. On verra, ça sera peut-être moins le cas dans quelques mois. En tout cas, voilà, les pistes, les coronapistes sont désormais pérennisées et vont continuer. Un grand merci pour cet éclairage. Pierre et Camilla, je rappelle que vous êtes chargé d'opération chez Seine-Saint-Denis Habitat. À très bientôt sur Radio Territoria, Radio Immo.
Merci.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Immo et Radio Territoria.